Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à Canal Académie et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire, un jour dans l'histoire que j'ai souhaité consacrer à Saint Rémy. Nos auditeurs connaissent cette période de transition, la fin d'un empire, le début d'un royaume, même si les coupures, même si les ruptures nous apparaissent comme des facilitateurs ou bien même parfois des raccourcis. Nos auditeurs ont eu notamment l'occasion d'écouter sur cette antenne les émissions de Michel Rouche sur Clovis. Or, on ne peut dissocier Clovis de Saint Rémy. Rémy est peu connu, on va même dire inconnu. Nous avons tous en tête l'image, tout droit sortie de nos livres d'histoire du collège, l'image de ce baptême. Mais que représentait ce baptême au fond ? Était-ce un aboutissement politique, religieux, l'aboutissement d'un lien et d'une amitié, nous allons voir, entre Clovis et Rémy ? Ou bien était-ce au contraire le commencement même d'un symbole et d'une image, celle de la France chrétienne ? Ou bien, pourquoi pas, n'est-ce pas ici les deux options, à la fois aboutissement et commencement ? Mais Saint Rémy était aussi un évêque, et c'est un évêque qui a vécu très très longtemps pour son époque. Or, comme tout évêque, il a beaucoup à faire, surtout en cette époque de crise, la crise de l'Empire romain. Alors, quelle fut l'influence de cet évêque ? Est-ce que cette influence s'est cantonnée à une région ou bien, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, à une nation ? C'est ce que nous allons voir avec Marie-Céline Isaiah. Marie-Céline Isaiah, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancienne élève de l'école normale sup, vous êtes agrégée d'histoire, docteur en histoire des mondes anciens et médiévaux de l'université Paris 10 Nanterre, et aujourd'hui vous êtes maître de conférence, c'est bien cela ?
À Lyon.
À Lyon, donc à l'université Jean Moulin. Je complète la biographie en disant que vous êtes membre du Centre d'histoire médiévale, donc vous consacrez vos recherches au Moyen-Âge. Alors vous avez travaillé au cours de votre thèse sur ce personnage que l'on devrait appeler non pas Saint Rémy, mais Saint Remy.
Alors ça, c'est l'usage rémois. Et là, les rémois doivent être nos maîtres. Oui, à Reims, on dit Remy, et même certains diraient Remy. Ça, je n'ai pas encore pu m'y résoudre. Donc je dis, je m'applique à dire Saint Remy. Ce n'est pas complètement absurde, hein. Ça vient tout simplement du latin lui-même. Et les variations du nom, Remitius, Remetius, et pourquoi pas Remedius même, c'est un remède, comme on l'appelait à l'époque mérovingienne. Tout ceci intéresse bien sûr l'historien.
Alors, c'est un personnage difficile à aborder, Saint Remy. Nous allons utiliser le terme.
On va essayer.
Enfin, la prononciation de Remy. C'est un sujet difficile parce que, au fond, il apparaît comme un personnage écrasé par la personnalité de Clovis. Or, Saint Remy a vécu beaucoup plus longtemps que Clovis.
Non seulement avant, mais aussi après. Et c'est ça qui est magnifique avec Remy. C'est qu'il prépare, on a l'impression, il accompagne la conquête de la Gaule qui devient le royaume des Francs, on va dire. Et puis, il est aussi le témoin des 20 ans qui suivent la mort de Clovis, avec ce que ça veut dire de déchirement entre les héritiers, avec les problèmes de rectification des frontières. Et Remy est, dès cette époque, en tout cas c'est l'une de mes hypothèses, un petit peu utilisé comme un symbole. Et déjà un petit peu momifié vivant dans cette espèce d'attitude du baptiste, du témoin du passage de la royauté franque au catholicisme. Et finalement, cette observation-là sur les années qui vont de 511, la mort de Clovis, jusqu'à, allez, avant 535, la mort de Remy, prépare déjà ce que Remy va devenir, c'est-à-dire dans notre histoire nationale, quelque chose comme un symbole. Et moi, derrière le symbole, c'était l'homme, bien sûr, qui m'intéressait.
Or, ce personnage a été très peu étudié dans l'historiographie.
Alors, oui, c'est vrai, peut-être en partie parce que la source majeure sur le règne de Clovis, c'est Grégoire de Tours. Or, Grégoire, évêque de Tours, écrit dans les années 580-590, on est déjà 50 ans au moins après la mort de Remy. Et quand Grégoire de Tours livre la première histoire nationale, histoire officielle du royaume franc, ce qui l'intéresse, c'est bien sûr Clovis. Et Remy, dans l'histoire de Clovis, arrive comme l'agent ponctuel du baptême. 496, Remy est aux côtés de la cuve, il plonge Clovis dans l'eau, et pour Grégoire de Tours, c'est la seule chose intéressante. Donc il y a, c'est sûr, d'abord un problème de source. Limiter l'action de Remy à cette action de Baptiste.
Mais vous avez, alors c'est un paradoxe parce que votre ouvrage, hein, je n'ai pas cité les références, donc Rémy de Reims, Mémoire d'un saint, histoire d'une église, qui se divise en deux parties, hein, nous allions revenir, il y a une première partie qui est constituée par la vie de saint Rémy, qui fait environ 200 pages, et le reste qui est justement la construction de ce symbole et les variations de ce symbole au fil du Moyen-Âge. Donc c'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf, c'est un ouvrage très important et au fond, les sources sur la vie de saint Rémy elles-mêmes sont très peu nombreuses. Il y a ce fameux testament et il n'y a pas plus de 10 lettres.
Voilà, même je dirais pas plus de 4 en fait. Alors c'est vrai que si on regarde pour les évêques contemporains, les évêques des années 460-530, on va dire qu'il y a une abondance inhabituelle de sources. Parce que sorti du registre d'Avit, évêque de Vienne, ou du registre de Sidon Apollinaire, évêque de Clermont, on n'a pas une telle richesse. 4 lettres, c'est peu. En même temps, c'est assez, me semble-t-il, pour déjà se faire une petite idée, un peu sur la personne, ses idées, peut-être plus encore sur sa culture. On a le testament, on a 2 inscriptions métriques, et puis très vite, c'est vrai qu'il faut oser fréquenter les sources hagiographiques, là, qui sont des sources qui parlent beaucoup plus de l'image, du symbole, mais aussi de la mémoire de ce qu'est devenu Saint-Remy, pas tellement du point de vue des rois francs d'ailleurs, et beaucoup plus du côté de son église. Comment est-ce qu'à Reims, on a voulu en garder la mémoire ?
Et à un moment, vous faites un tableau en fait, des différentes églises qui dépendent de Saint-Remy, Arras, Reims évidemment, Soissons n'en faisait pas partie, mais vous avez quand même d'autres sources qui, elles, sont plus ou moins importantes et qui vous permettent de retracer en quelque sorte l'influence.
Voilà, alors... D'un point de vue géographique, vous parlez de 2 travaux différents, mais qui sont effectivement importants. Il y a le premier travail, que pouvons-nous dire de l'action de Remy comme métropolitain ? En tant qu'évêque de Reims, il est responsable de la christianisation du nord-est de la Gaule. Il va être responsable d'évêchés aussi lointains que l'évêché d'Arras, de Thérouanne, de Cambrai, et puis plus proche de lui, peut-être de la création du diocèse de Laon, encore que, bon, il me semble qu'il y a des éléments contre cette thèse. Donc, un premier aspect du travail était de faire une sorte de tableau de la province de Reims, et pas simplement du diocèse, juste avant l'an 500, pour voir si on pouvait évaluer la politique de Remy à l'échelle de sa province ecclésiastique. Et puis, il y a un deuxième travail, c'est celui qui m'a retenu pour les 6e et les 7e siècles, qui est de savoir, à travers cette fois les lieux de culte Saint-Remy, dans quels espaces, dans quels royaumes, dans quelles régions pouvait se conserver, s'entretenir la mémoire de ce saint, en essayant de voir, dans la mesure du possible, derrière chacun des lieux, eh bien, s'il y avait des acteurs qu'on pouvait identifier, des aristocrates attachés à la mémoire de ce saint. Donc effectivement, il y a tout un aspect du travail qui relève de la géographie historique, si on peut dire.
Alors, je me plonge dans la vie de Saint-Remy, hein, qui est l'objet de cette émission. Vous tentez de retracer une sorte de généalogie du nom de Saint-Remy. Donc, vous parlez d'un préfet d'Égypte, vous parlez également d'un chef des bureaux impériaux. Je souhaiterais m'arrêter simplement sur le Remigius, évêque d'Aix, parce qu'il y a un lien, sans vouloir trop rentrer dans le détail, on pense évidemment au sud de la France, à Saint-Remy de Provence.
Oui, alors Saint-Remy de Provence, c'est un lieu possédé par l'église de Reims à l'époque carolingienne. Là-dessus, on a des sources explicites à partir de l'épiscopat d'Ankmar, donc on est dans la deuxième moitié du 9e siècle. La grande question est de savoir où est la poule et où est l'œuf. C'est-à-dire, est-ce que ces biens de Provence, parce qu'ils sont propriété de l'abbaye Saint-Remy de Reims, ont pris le titre de Saint-Remy ? Ou alors, est-ce qu'il y avait dans la topographie, dans la toponymie, déjà la trace de l'implantation de la famille de Remy en Provence? Évidemment, je ne tranche pas. La prudence voudrait peut-être qu'on réserve à une date un petit peu plus tardive le moment où Saint-Remy de Provence entre dans le patrimoine de l'église rémoise.
Alors, la naissance de Remy intervient dans un contexte bien particulier. Je parlais tout à l'heure de la fin d'une époque, du début d'une autre. Il y a ce contexte du paganisme conservateur et du développement de la christianisation qui est vraiment majeur à cette époque-là.
Alors, c'est surtout du point de vue des élites et de ces élites sénatoriales auxquelles la famille de Rumi semble appartenir que ces années, la deuxième moitié du 5e siècle, apparaissent comme des années charnières. Effectivement, les élites sénatoriales qui étaient peut-être restées attachées à l'idée d'un paganisme spiritualisé, un paganisme qui était peut-être moins rituel et beaucoup plus philosophique, tout d'un coup sautent le pas, adoptent le christianisme avec conviction. Ça, c'est finalement un domaine sur lequel l'historien ne doit pas se prononcer, mais aussi sans doute parce que l'Église offre alors, c'est une vieille théorie, mais je ne vois pas de raison de la remettre radicalement en question, l'Église offre alors des conditions pour continuer à exercer leur supériorité sociale, leur supériorité politique et en gros se mettre au service du bien commun dans un nouveau cadre institutionnel. L'Église responsable de l'assistance aux pauvres, de la vie civique. Et là, les parents de Rumi sont sans doute assez à l'aise.
Alors, d'où vient Rumi ? Quel était son milieu familial ?
Alors, si nous avons raison de nous attacher au nom, ce nom original de Remedius, il y a deux ou trois générations de sénateurs romains. Sénateurs qui font des carrières dans l'Empire, mais à l'époque de Rumi, cela ne veut plus dire grand-chose. Il n'est pas question pour lui ni d'aller participer aux réunions du Sénat à Rome, ni de devenir préfet en Égypte, à l'évidence. Donc ce qui reste de cette origine sénatoriale, si elle est fondée, eh bien c'est plutôt peut-être la responsabilité civique, l'habitude de gouverner les élites municipales, l'habitude de prendre en charge eh bien, ce que je détaillais tout à l'heure, l'assistance aux pauvres, les négociations avec les garnisons cantonnées dans l'espace où nous sommes, quelque part entre Laon, Soissons et Reims, et puis l'exercice des responsabilités du grand propriétaire, sans fantasmer sur la richesse des parents de Saint-Remy. Quand on voit le testament de l'évêque, on est quand même face à une famille qui jouit d'une réelle aisance. Voilà. Donc ce sont des aristocrates, propriétaires terriens, quelque part dans la montagne de Reims et plutôt du côté de Laon.
Vous dites Rémy de Reims, grand propriétaire à sa mort, n'était pas un héritier, il suffit pour s'en convaincre de dénombrer les colons qu'il tient, etc., etc. Ce qui est étonnant, et ça nous ramène d'ailleurs à ce que nous disions sur les sources, c'est que vous écrivez « L'origine géographique et sociale de Rémy peut être précisée par l'étude des biens immobiliers mentionnés dans son testament ». C'est là où on voit que les objets et l'étude, l'archéologie, a tout son rôle dans l'histoire, puisqu'au fond, joue un peu le rôle de policier en essayant de retracer cette richesse et de donner un lieu et une importance à cette richesse.
Alors, c'est sûr qu'on doit mener des enquêtes. Je ne sais pas si ce sont des enquêtes policières, mais des enquêtes, c'est sûr. Pour le testament en particulier, c'est vrai que c'est une source absolument passionnante, puisqu'on continue de s'interroger sur son authenticité. C'est quand même un document qui existe dans 3, 4, 5 versions différentes. Alors, tout le monde s'accorde pour dire que les versions les plus longues, celles qui vont parler de la royauté sacrée, sont forcément anachroniques. Mais dans toutes les autres versions, faire la part de l'invention, la part de l'origine, bon, je crois qu'à la racine, il y a quand même un testament original de Saint-Remy, avec une allure d'ailleurs de testament à la romaine, qui tranche avec toutes les donations, ce qu'on appelle improprement les testaments des évêques du VIe siècle, mais qui sont en vérité des donations. Là, Rumi agit encore tout à fait dans le cadre du droit prétorien du début du IVe siècle, c'est assez saisissant. Et effectivement, il a beaucoup de domaines dans la montagne de Reims, si on arrive à élucider les lieux proprement, et surtout beaucoup d'hommes pour les cultiver, beaucoup d'esclaves, beaucoup de vignerons aussi.
Je reçois Marie-Céline Isaïa. Nous nous retrouvons dans une minute.
Comment sont réalisées les épées d'académiciens ? Pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ces pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Marie-Céline Isaïa, historienne, auteure d'une biographie consacrée à l'inconnu Remis de Reims, mémoire d'un saint, histoire d'une église. C'est le titre de votre livre, Marie-Céline Isaïa, paru aux éditions du Cerf. Alors, il y a une chose que l'on ne sait pas, et là aussi cela montre bien que Remis nous apparaît comme un personnage un peu inconnu, c'est qu'il avait un frère. Et ce n'était pas un petit frère, c'est un personnage important et qui lui aussi a été saint et que l'on a oublié.
Alors, principe, moi je l'aime beaucoup. Ce principe-là, il reçoit de Sidoine Apollinaire, qui inonde les évêques de Gaulle de ses lettres, il reçoit deux lettres qui tranchent avec la production habituelle des lettres de Sidoine, puisqu'elles sont des demandes humbles de prière. Et des aveux, eh bien que Sidoine compte beaucoup sur l'intercession de Principe. Je pense que Principe devait être un homme d'une autorité morale, quelqu'un qui avait vraiment une grande valeur intellectuelle aussi. Et ce principe-là, curieusement, n'est pas passé tellement à la postérité. Il y a une petite vie de saint Principe qui date du XIIe siècle seulement. Alors, dire qu'il a été éclipsé par saint Remis, c'est peut-être un peu facile. Il est aussi l'évêque d'un siège, Soissons, qui est situé peut-être dans le mauvais royaume au mauvais moment. Voilà. Mais c'est un personnage sur lequel j'aimerais, oui, qu'il y ait matière pour faire un principe de Soissons après Remis de Reims.
Un appel à vos étudiants.
Voilà.
Alors, Remis devient très tôt évêque, mais avant de devenir évêque, il est bien évidemment formé. Quelle était la formation d'un évêque à cette époque ?
On est juste... C'est la génération de la transition. Remis monte sur le siège épiscopal de Reims, sans doute vers 22 ans. Cela veut dire qu'il a eu le temps d'acquérir la formation initiale des gens de son milieu. Il maîtrise un latin tout à fait propre. Il aime de temps en temps versifier. Il avait quelques ambitions en matière de rhétorique. Pour le reste, c'est un débutant. Il n'a pas fait d'études supérieures et on peut penser, parce qu'il l'écrit dans une lettre à l'un de ses suffragants, on peut penser qu'il a vécu une sorte de complexe d'infériorité par rapport à certains de ses collègues dans l'épiscopat qui, eux, avaient pu encore peut-être faire qui des études de droit, qui un petit peu plus de recherche en théologie ou en exégèse. La formation de Remis est restée assez limitée.
Mais on sait que Saint-Augustin, et on est venu chercher Saint-Augustin pour qu'il devienne évêque, est-ce que c'est le cas de Remis ? Est-ce qu'il est nommé ? Comment se passe cette... Parce que 22 ans, on se dit, c'est excessivement jeune.
Oui, et d'ailleurs, ça n'est pas canonique. Il aurait fallu attendre pour que Remis puisse normalement accéder au siège épiscopal de Reims. Donc, ça fait partie des mystères que j'essaie d'élucider, mais je ne peux ici formuler que des hypothèses, pas des certitudes. Pour expliquer que Remis ait été comme ça promu d'une façon un petit peu brusque contre les usages, contre les canons, il faut peut-être revenir au contexte et imaginer que dans ces années 459-461, c'est le contexte politique qui a été déterminant. Or pour moi, ce sont les années de prise de pouvoir de Majorien, l'empereur, et de Childéric, le père de Clovis. Donc, je formule l'hypothèse, tout ceci doit être pris bien sûr avec prudence, et bien que la famille de Remis apparaissait localement comme l'une des familles capables de garantir un certain ralliement à ces deux hommes forts, un certain accord donné par les élites gallo-romaines catholiques à la prise de pouvoir de ces deux hommes-là.
Donc, dès le commencement, Remis est à la fois un symbole religieux, un symbole catholique, mais aussi un symbole politique.
C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui repose sur le fait que Childéric, père de Clovis, habitait dans ces régions. Il avait, ou en tout cas ponctuellement, son siège, sa garnison, tantôt à Lens, tantôt à Reims, de temps en temps à Paris, mais seulement à certains moments de crise. Comment imaginer qu'il n'ait pas fréquenté à Lens les mêmes cercles que ceux des parents de Remis. Quand je vois Remis écrire à Clovis, 15 ans, en 481, mon petit Clovis, j'ai bien connu ton papa. Et d'ailleurs, tu marches sur ses traces. C'est la lettre d'un homme qui connaît déjà Clovis, qui l'a déjà fréquenté, qui ne le découvre pas comme chef sorti tout casqué de la cuisse de Jupiter.
Cher Amy, nous ne sommes pas dans l'éloquence, mais plutôt dans un style sentencieux, mais avec beaucoup de bon sens. On le sent très mesuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exubérance chez lui.
Alors, le style de Remy m'a posé beaucoup de problèmes et je voudrais profiter finalement de cette émission, merci de m'en donner l'occasion, peut-être pour rectifier quelques petites choses que j'ai pu écrire et que je ne pense plus dans les mêmes termes aujourd'hui. Voici la démarche. Remy est célébré par son contemporain Sidoine Apollinaire et par Grégoire de Tours comme un homme particulièrement doué pour la rhétorique et pour le style. C'est un fait. Et quand on lit les lettres de Remy, partant de ce jugement quand même du grand styliste qu'est Sidoine Apollinaire, on est déçu. On est face à une série de proverbes, de sentences, de remarques de bon sens, comme vous le disiez très justement. Et j'ai fini par écrire, disons-le, que Remy était un gros lourdeau. Le plus fort, c'est quand on le voit écrire à Clovis. Clovis et
vous
son
ne le
ami.
Pas dans ces termes, quand même.
Non, mais enfin, c'était un peu ça que ça voulait dire. Clovis et son ami, il vient de perdre sa sœur Albofled. Remy écrit une lettre de consolation et, en gros, je résume, hein, je ne traduis pas directement du latin, mais ça pourrait être ça. Cher Clovis, j'ai appris la mort de ta sœur, c'est bien triste. En même temps, on peut se réjouir, elle doit être au ciel, je t'embrasse, Remy. Je compare cette lettre avec des lettres de contemporains, avec des lettres d'Avid de Vienne, avec des lettres un peu postérieures de Ruricius de Limoges, et je me dis que vraiment, l'habileté n'est pas du côté de Remy. Et c'est en ces termes-là que je l'ai écrit. Maintenant, avec un petit peu plus de recul peut-être, je reprends le dossier et je me dis, oui mais, de quel côté est l'humanité ? Clovis vient de perdre sa sœur, qu'est-ce que lui écrit Remy ? Je suis triste. Je suis triste avec toi. Alors c'est sûr, c'est très très loin des flonflons d'Avid de Vienne. Mais est-ce que le personnage le plus sympathique n'est pas finalement notre Remy ? La lettre se termine quand même par « C'est Remy qui parle. Je suis vieux, je suis fatigué, je suis malade. Mais si t'as besoin de moi, je viendrai. » Moi je dis, cet homme-là, bon, ben voilà, il n'avait pas fait des études très approfondies. Mais c'est peut-être un évêque sur lequel on peut compter.
Authentique en tous les cas. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort hein, très clairement de votre biographie. C'est, il n'est pas dans l'intellectualisme, si vous me permettez cette expression. Et d'ailleurs, une partie de votre ouvrage s'intitule « Rémy théologien ». Il est plus scolaire, il ne part pas dans des déclarations orthodoxes, sentencieuses.
Non. Et d'ailleurs, ça me pousserait à relativiser cette interprétation qu'on a souvent du règne de Clovis à cause de Grégoire de Tours, toujours, comme d'un moment de tension extrême, de polémique entre catholicisme et arianisme. Vu à travers la carrière et l'enseignement de Remy, on n'a pas l'impression que ça l'ait tellement préoccupé. Le paganisme peut-être, l'arianisme, en tout cas cela ne transparaît pas dans ses œuvres.
Il y a, je reste hein, sur ce tempérament, ce personnage, on sent même une humilité chez lui, et au fond on se dit que cette humilité, eh bien, Clovis n'y a pas été indifférent.
Peut-être. Peut-être que ça a joué, aussi parce que c'était ce grand vieillard qui n'hésitait pas, avec son petit aspect un peu paternaliste, à venir lui donner quelques conseils. C'est vrai que quand il écrit, on est tout à fait à la fin de sa vie, il écrit à ses confrères, il y a des confrères qui lui font la morale. Remy s'est laissé embobiner par un certain Claude. Claude a fait des dettes. Remy a cru bien faire de lui pardonner. Bon, les confrères le lui reprochent et prennent apparemment un ton cassant en l'accusant d'être gâteux. Et Remy dit c'est vrai. C'est vrai, je suis vieux. Dans une autre lettre, il explique qu'il n'a pas fait d'études, on l'a dit. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il continue à dire ben voilà, j'ai rencontré mon grand homme. Mon grand homme, c'est Clovis. Et celui-là, il a fait du bon travail. Et Remy ne tire pas la couverture à lui. Il ne trouve pas d'excuses. Il reconnaît, oui, enfin, il a fait une bêtise en faisant confiance à Claude. Mais il dit, il y a l'action d'un homme à qui il ne faut vraiment pas faire de reproches. C'est notre Clovis. C'est vrai qu'il y a une certaine part d'humilité dans cette attitude.
C'est ce qui fera sa sainteté. Alors, en tous les cas, son exemplarité. Le livre de Paul Venn, Comment notre monde est devenu chrétien, insiste beaucoup sur l'idée que si le christianisme se développe aux différentes époques de l'Empire romain, c'est parce que ces personnages étaient exemplaires. En tous les cas, les chrétiens se devaient d'être exemplaires. Est-ce que c'est le cas de Rémi ?
Alors,
est-ce qu'il y a eu une hagiographie après qui, encore une fois, fait mousser le personnage ? Ou bien, si vous me permettez cette expression, au contraire, est-ce que ce fut une réalité ?
Alors, c'est assez problématique dès qu'on entre dans la géographie mérovingienne parce qu'il y a très peu de mentions de ce qu'aujourd'hui nous appellerions dans un procès de canonisation les vertus héroïques. On n'a pas du tout de récit sur le combat spirituel de Rémi contre tel ou tel vice. Non, ce qui fait la sainteté d'un évêque au VIe siècle, c'est d'abord sa capacité à accomplir des miracles. Et si Rémi est l'objet d'un culte, d'une vénération, si on se rend auprès de ses reliques, c'est parce que les contemporains sont persuadés qu'il accomplit des miracles, et pas n'importe quel miracle, y compris des miracles de résurrection. C'est d'abord comme thaumaturge qu'il est vénéré.
Est-ce qu'on sait, il y a la trilogie Geneviève, Clotilde et Rémi, est-ce qu'on a des documents qui permettent d'établir de manière plus ou moins sûre qu'il y a eu un lien, qu'il a existé un lien entre ces trois personnages autour de Clovis qui s'est retrouvé un peu au milieu des trois?
Alors, ça me frappe beaucoup. Grégoire de Tours nous dit que Rémi est venu baptiser Clovis à l'appel de Clotilde. Il est le seul à y penser. La vénération dont jouit Clotilde est bien plus tardive que celle qui entoure le souvenir de Rémi. Mais de contact entre Geneviève et Rémi, les sources du VIe siècle n'y ont pas pensé. Et il faut attendre le IXe siècle pour que dans certaines versions de la vie de Geneviève, on voit intervenir Rémi. Comme on réparait finalement un oubli historique. Cela me fait réfléchir sur la date du baptême. On ne va pas ici refaire cette histoire.
Alors, mais... il faut dire, donc j'ai reçu Michel Rouche à ce micro. Michel Rouche, c'est 499. En fait, vous dites qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui pense que ce baptême a eu lieu à la fin du 5e et il y a une autre école qui pense que
c'est 10 ans plus tard. Oui, voilà. Ici, je ne vous referai pas l'histoire de la date du baptême de Clovis. J'observe simplement que Geneviève est morte en 502 et que dans aucune source assez proche des événements, on ne pense à dire qu'elle était présente au baptême de Clovis. Or, vu l'autorité qu'elle avait manifestement sur le roi franc, ça me semble inimaginable qu'elle ait pu ne pas venir. Je pense que c'est l'un des arguments en faveur d'une date tardive.
Marie-Céline Isaïa, nous nous retrouvons dans un instant.
Un jour dans l'histoire revient sur les raisons de la condamnation par l'église de Galilée copernicien en compagnie d'Aimé Richard. Pour tout comprendre sur le contexte politique, scientifique et historique, téléchargez dès maintenant cette émission sur Canal Académie.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à Rémi de Reims. Rémi de Reims, mémoire d'un saint, histoire d'une église. C'est un ouvrage paru aux éditions du Cerf de Marie-Céline Isaïa que j'ai le plaisir de recevoir à ce micro. Je souhaiterais revenir sur sa fonction d'évêque, donc Rémi de Reims, un évêque en Gaule franque. On est étonné, moi j'avoue l'avoir découvert, alors j'ai peut-être oublié, mais l'histoire des institutions telles que Hubert Guillotel me les a apprises quand j'étais à l'université, mais j'ai été étonné par l'étendue géographique du pouvoir de Rémi.
Alors, si on s'en tient à notre histoire des institutions, c'est vrai qu'il est censé gouverner jusqu'au nord du diocèse de Thérouanne. La réalité de son intervention dans les diocèses de sa province, ça dépend beaucoup. Et je crois qu'il agit là avec un réel pragmatisme. Nous ne devons pas être victimes, finalement, d'une présentation de l'histoire des institutions à travers des cadres géographiques et des préjugés. Rémi fait ce qu'il peut. Et il y a des endroits où il peut plus qu'ailleurs. Par exemple, à Arras, j'ai tendance à penser que la légende qui s'est développée autour de Saint-Vaast a un fond de vérité et que Rémi a peut-être veillé particulièrement à la réorganisation, l'encadrement, disons, du diocèse d'Arras. Ailleurs, il y a sûrement des tas d'endroits de sa province, non seulement où il ne va jamais, mais même où il ne peut rien faire.
Propriétaire terrien. Alors, il y a une présentation qui est extraordinaire parce que, et c'est là où, au fond, on pense aussi à cette humilité. Alors, c'était un propriétaire terrien. Un propriétaire terrien signifie qu'il a des esclaves. Et vous donnez aussi un sens, en tous les cas, une évolution de l'idée de l'esclavagisme chez Rémy en cette fin d'Empire romain.
Ce qui est sûr, c'est qu'il libère 100 de ses esclaves par son testament. Bon, c'est pas non plus très original. Ce qui me semble beaucoup plus fin, si le testament a raison, c'est qu'il installerait certains de ses esclaves, c'est-à-dire, comme on le dit, pour employer le mot technique, qu'il les caserait, qu'il leur donnerait un lopin, toujours le même à cultiver. Ça, c'est une évolution qu'on comprend bien, qu'on connaît bien pour la période carolingienne. Ça me semble relever d'un pragmatisme économique tout à fait judicieux. Et il me semble que c'est ce que fait Rémy pour la mise en valeur de ces domaines. Non, moi, ce qui me frappe le plus dans la mise en valeur, c'est cet intérêt pour la vigne. C'est qu'il connaît tous ces vignerons par leur nom, leur prénom, leur surnom, qu'il sait où sont les vignes, sans doute ce qu'elles rapportent, ce qu'elles produisent, et qu'il s'y intéresse de très très près. Alors on est à Reims, c'est vrai, mais quand même on a là, je trouve, bah oui, allez, un trait d'humanité peut-être du personnage.
Mais vous le limitez à ce micro, à la vigne. Or, c'est un personnage, en tous les cas, je l'ai ressenti comme ça, qui est très en phase avec la réalité. Ce n'est pas un idéaliste, c'est un propriétaire terrien. Il y a un côté, j'allais dire, monastique au personnage qui est très en phase avec les choses terrestres. Il est également orfèvre. Tout ça participe un peu de cette, j'allais dire, de cette humilité du personnage qui est vraiment en phase avec la réalité de notre monde.
Alors, orfèvre, je le mettrai avec beaucoup de points d'interrogation. On sait qu'il s'est préoccupé de faire ou de faire fabriquer, et le latin est très ambigu, des vases liturgiques. Et qu'il y avait même sans doute un calice qu'il avait pris le soin de faire orner d'une inscription métrique qu'il avait rédigée lui-même pour que le calice garde le souvenir de ce don de Rémy. Le reste, alors, ça existe, les évêques orfèvres, hein, le grand et le bon Saint-Éloi savaient travailler de ses mains. Ça existe, les évêques cultivateurs. On a des contemporains de Rémy, du côté notamment de la Suisse, qui n'hésitent pas à peut-être pas à pousser la charrue, mais enfin à tailler leur vigne eux-mêmes. Savoir où situer Rémy dans ce tableau général, je pose la question. J'ai l'impression qu'on est effectivement peut-être un peu plus du côté d'un modèle venu d'Orient via les Reims qui défend l'idée d'un évêque astreint à un certain travail manuel, peut-être, plutôt que du côté d'un évêque plein de morgue, de superbe, de conscience de sa supériorité, qui serait le modèle martinien, pardon, pour les dévots de Saint-Martin. Quelque chose comme ça.
Alors, c'est excellente transition. De la terre au ciel, il n'y a qu'un pas. Je vous cite que Rémy cultive sa vie n'est donc pas un caprice de sénateur en mal de nouveauté, mais peut-être l'adoption cohérente d'une spiritualité choisie sur le modèle d'Hilaire, dont ses contemporains affirment, assumant même pour le Christ les travaux des champs, il n'a pas dédaigné de descendre jusqu'à obéir comme un esclave, en vivant dans sa charge comme le plus petit, atteignant ainsi les plus hauts sommets.
Je crois que c'est peut-être vrai.
Qui était Saint-Hilaire? En fait, il y a la spiritualité de Saint-Hilaire et il y a en face celle de Martin de Tours. Or, vous le situez plus du côté de Saint-Hilaire que de Martin.
Voilà. Alors, derrière Saint-Hilaire, il faut comprendre tout ce qui vient de les Reims. Les Reims, c'est donc cette île aujourd'hui toujours en face de Cannes, où se pratiquait un monachisme de type oriental, inspiré par la lecture de Jean Cassien, par exemple. De ce monastère où l'on pratiquait volontiers le travail intellectuel, la meilleure recherche intellectuelle et en même temps le travail manuel, sont sortis toute une série d'évêques qu'on retrouve à Arles, que l'on retrouve à Marseille, que l'on retrouve à Fréjus, et qui développent du coup, parvenus sur leur siège épiscopal, une spiritualité de la charge pastorale qui n'est pas celle qui se développe à travers, alors plutôt dans l'ouest de la France actuelle, autour de l'exemple très charismatique, très ascétique, mais aussi assez violent de Saint-Martin. Maintenant, faut-il choisir pour Saint-Rémy? Je ne sais pas. J'ai eu l'impression qu'il était peut-être plus proche de cette spiritualité, oui, vous avez raison, monastique lérinienne.
Est-ce que c'était un homme d'influence, parce que, bon, comme tout, il a un pouvoir d'ordre et d'organisation sur son territoire. Est-ce que c'est un personnage d'influence et au-delà, est-ce qu'il a profité de sa position par rapport à Clovis, qu'il connaissait donc très bien, bien avant son baptême. Est-ce qu'il a profité de cette situation, j'allais dire, pour augmenter et promouvoir cette influence?
Alors franchement, de ce point de vue-là, Rémi est un raté. Nous sommes face à un évêque pour lequel on n'est même pas sûr qu'il ait jamais été jusqu'à Paris. On ne le voit siéger à aucun des conciles convoqués par Clovis. Tardivement, on va dire de lui qu'il a reçu des dons de Clovis, mis à part un vase peut-être, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver dans son testament.
Le fameux vase.
Oui, celui-là ou un autre. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il ait tiré profit de son influence. Et même si je n'y avais pas pensé, mais si on relit son action sous cet angle-là du « a-t-il pu s'auto-promouvoir ? A-t-il pu tirer parti de son poste ?» je dirais qu'il a entièrement échoué. Il écrit à un de ses collègues, l'évêque Francon, une lettre qui montre très bien que l'évêque Francon avait perçu des droits, levé des taxes sur des terres du diocèse de Reims, parce que Rémi avait sans doute oublié de le faire. Et Rémi le lui reproche, mais en même temps, il avoue bien que, bah oui, il ne s'en était pas préoccupé. Et pareil, quand il écrit à ses collègues, il se moque de lui quand même, les collègues. Et Rémi ne sait pas très bien répondre. Oui, je crois que ce n'est pas un grand politique. Voilà.
Ce n'est pas un grand politique. Est-ce qu'il pouvait profiter de cette situation, au fond? Est-ce qu'il en avait les moyens? On sait que le renouveau du christianisme à toutes les époques est lié notamment au renouveau monastique. Or, vous le montrez dans votre ouvrage, il n'y a pas de monastère dans son territoire. On a l'impression qu'il se concentre, alors vous allez peut-être me contredire, en tous les cas me répondre, mais on a l'impression qu'il se concentre sur l'essentiel.
Oui, oui, oui. Quand je dis que ce n'est pas un grand politique, je le prends comme un compliment. Il ne faudrait certainement pas le
oui,
mal
l'entendre. Oui, parce qu'il y avait quand même le terme de raté.
Voilà.
Je voulais trop dire.
De ce point de vue-là. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai de plus en plus de sympathie. Disons qu'il ne cherche pas à profiter de son influence. Ça, c'est une évidence. Il ne développe pas la vie monastique dans son diocèse. Ça m'a frappé. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il va à l'essentiel. L'urgent, c'est que les gens de son diocèse, les gens de la campagne, aient accès aux sacrements. Donc ce qu'il développe, ce sont des basiliques desservies par des clercs ruraux qui vont pouvoir prêcher, baptiser, célébrer les sépultures et la messe. Et c'est quelque chose de beaucoup plus, pas meilleur que le monachisme, on ne va pas ici faire d'échelle de valeur, mais de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus adapté, en tout cas à la réalité, à son époque, à la réalité de sa province. Pour parler... Et pour finir sur cette espèce d'échec politique, entre guillemets, ou de fait qu'il n'ait pas profité de son influence, il y a quand même la question de son successeur. Les familles bien en place qui tenaient un siège épiscopal se débrouillaient plus ou moins pour que ça reste dans la famille. Ben, le successeur de Rémi, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne fait pas partie de sa famille. Donc on ne peut vraiment pas dire qu'il ait profité de son influence de ce point de vue-là.
Vous dites, il serait ridicule de faire de Rémi l'unique artisan de l'éclosion du christianisme dans la province de Belgique seconde autour des années 500. Et vous continuez, la concordance de l'épiscopat de Rémi et la résurrection d'église devenue si discrète au 4e et 5e siècle fait seulement de l'évêque de Reims le grand coordinateur de cette renaissance. Il y a tout de même une renaissance.
Oui, alors Rémi agit avec ce qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire que sa responsabilité, c'est de donner les cadres, de consacrer les évêques qui vont pouvoir reprendre en main les cités épiscopales où un embryon d'église recommence à vivre, à célébrer. Voilà, donc c'est une action qui a l'air à la fois très hiérarchique et puis quand même qui donne les moyens de l'essentiel, j'espère. Mais c'est vrai qu'il organise, pour ce qui est de son diocèse propre, il organise la création de paroisses rurales, par exemple à Mouzon, qui me semble tout à fait fondamentale pour comprendre la christianisation des campagnes avant la grande étape de christianisation par les monastères qui n'a lieu qu'au 7e siècle. Là, Rémi agit, à mon sens, exactement comme Césaire, évêque d'Arles, en créant un clergé rural séculier compétent. Ça, c'est fondamental.
Ce qui est au fond son rôle et son
oui,
devoir d'État.
Tout à fait. Et je crois qu'il le fait bien.
Marie-Céline Isaïan, nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Ils furent confrères à l'Académie française. Jean d'Ormesson vous parle de Claude Lévi-Strauss. Écoutez le témoignage de l'écrivain à l'occasion du centenaire de l'anthropologue. Il fut son parrain, mais aussi son admirateur. Jean d'Ormesson vous livre des anecdotes et des moments riches d'humanité. Claude Lévi-Strauss par Jean d'Ormesson, Une émission à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Remi de Reims. Je reçois avec beaucoup de plaisir Marie-Céline Isaïa, historienne, auteure du livre Remi de Reims, Mémoire d'un saint, histoire d'une église, paru aux éditions du Cerf. Alors, Marie-Céline, je souhaiterais terminer cette émission sur le fameux baptême, au fond, sur ma question au début de cette émission. Baptême de Clovis, est-ce que ce fut un aboutissement ou bien un commencement ? Vous dites, vous, et au fond ça se pose dans la continuité de ce que nous disions tout au long de cette émission, vous le voyez comme un aboutissement normal, au fond d'une relation entre deux hommes qui s'inscrit dans le temps avec les liens familiaux qui peuvent exister. On sait que Clovis a une conversion personnelle qui n'est pas forcément sous l'influence de Sainte Geneviève ou bien celle de Saint Rémy, mais il n'empêche, c'est Saint Rémy qui, au fond, à la fin de la vie de Clovis, le baptise.
Oui, alors là, évidemment, tant pis, on est obligé de reparler de la date. C'est vrai que si on place le baptême en 507, 508, alors on est à 3 ans de la mort de Clovis en 511, et effectivement, me semble-t-il, le baptême est beaucoup plus la conclusion de ces années de coopération entre Remi et Clovis. Pour revenir une fois pour toutes à cette chronologie, il me semble qu'il faut attendre le passage de Clovis par Tours en 507. Les témoignages concordent sur ce point. Il y a une nouvelle, en tout cas une étape de conversion qui est franchie par Clovis auprès des reliques de Saint-Martin. Et c'est seulement après qu'il veut bien recevoir le baptême. Voilà, donc effectivement, pour l'histoire de Clovis et de Remi, c'est une conclusion.
Est-ce que, au-delà de cette conversion personnelle, il y a une vision de ce que peut être le catholicisme dans son association avec le monde politique ?
Alors, je suis toujours très réticente quand je dois parler de cette histoire. D'abord parce qu'on a l'impression que ça encourage la vision d'une conversion cynique. Vous savez, Clovis catholique, bah oui, c'est pour se rallier l'épiscopat, les populations gallo-romaines. Il n'en avait pas besoin. Si il reçoit le baptême en 507-508 comme je le pense, mais sa royauté est indiscutable. Son succès est complet. Il n'a pas besoin du ralliement de qui que ce soit. Donc, l'interprétation cynique est tout à fait désagréable. Par ailleurs, je crois que du point de vue de Remi, qui est finalement le seul qui nous retient ici, si le baptême avait signifié que Clovis acceptait de reprendre à son compte un empire romain chrétien et de le prolonger, alors c'est un échec. Parce que s'il y a une chose qui est nouvelle après le baptême, c'est la création de la royauté franque et de cette royauté héréditaire qui gouverne avec l'Église. C'est complètement nouveau, cette royauté-là. Donc, si Remi avait eu un espoir de prolonger son monde, le monde des empereurs romains, à travers ce baptême, ben là aussi, on ne peut pas vraiment crier à la réussite.
Donc, ce n'est pas un visionnaire.
Je ne pense pas. C'est un évêque admirable. C'est-à-dire que c'est un évêque qui s'occupe de gérer le quotidien, les gens qui l'entourent, qui accomplissent ses responsabilités là où il est, qui ne pensent pas à l'échelle d'une nation, d'un royaume ou que sais-je. Non, il pense déjà à l'échelle d'une province ecclésiastique et ça lui suffit. Et je trouve qu'il est tout à fait légitime d'admirer Saint Remi comme évêque.
Alors, malgré tout, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire qu'il y a ce que vous appelez, hein, ce que vous étudiez hein, dans les 400 pages ou 500 pages suivantes, c'est l'évolution du culte de Remi. Et Remi est en quelque sorte tiraillé par cette exemplarité locale, cette réputation de saint dans son entourage qui apparaît à la fin de son existence, et puis l'image d'une telle qu'elle sera reprise après par tous les chroniqueurs de ce personnage qui fonde un dessein
oui.
Et qui a une vision
oui.
Chrétienne.
Alors ça, c'est complètement fascinant. La façon dont Remi a été, tant pis, disons-le, réduit, limité à cette espèce d'accessoire de la légende de la royauté sacrée. Tout d'un coup, Rumi n'est que celui, c'est déjà pas mal, mais n'est que celui qui rend possible la naissance de la royauté sacrée en brandissant la sainte ampoule, en faisant couler le Saint-Crème sur le front de Clovis et, après lui, de tous les rois très chrétiens, etc. etc. Cette légende-là, eh ben, c'est ce que vous ne trouverez pas dans le livre. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'étape intermédiaire, ce qui se passe du 6e jusqu'à la naissance du 12e siècle, où au contraire, le souvenir de Rumi est polymorphe. On peut tout trouver, on peut tout lui faire dire. On a besoin d'un apôtre, Saint Rumi apôtre. On a besoin d'un saint qui illustre la grandeur et la beauté de la cité de Reims, et ben Saint Rumi devient le protecteur, le patron particulier de la cité de Reims. On a besoin d'appuyer la royauté carolingienne, ce sera le patron de la royauté carolingienne. Il y a une sorte de plasticité absolue du règne de Saint-Rémy. On va tirer tantôt le personnage du côté du thaumaturge, tantôt le personnage du côté du baptiste, et tout est possible grâce à Saint-Rémy d'abord, et à Hincmar ensuite évidemment, qui est quand même le grand artisan de cette figure de Saint-Rémy à tout faire, qui moi m'a... tout à fait fasciné.
Mais au fond, s'il n'y avait pas eu cette perception, ce côté polymorphique, vous ne seriez pas là aujourd'hui voilà. Pour en parler. Écoutez Marie-Céline, Isaïa, merci beaucoup d'être...
C'était un plaisir, merci de m'avoir invité.
D'être venu au micro de Canal Academy. Je rappelle donc les références de votre ouvrage « Rumi de Reims, mémoire d'un saint, histoire d'une église » aux éditions du Cerf. Un ouvrage que je conseille à tous les passionnés de cette époque si caractéristique de cette transition de la fin de l'Empire romain et le début d'une autre époque, donc le Royaume franc, et également une leçon pour tous les étudiants en histoire, puisque vous nous apprenez avant tout l'humilité face aux sources qui sont peu nombreuses, et je pense qu'en cette époque, c'est une vertu que l'on devrait cultiver.
Merci.
Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.